Il y a un peu de justice, Papon est mort.
Maurice Papon est décédé. Rendons-lui hommage.
Qu'est-ce qu'on va lui reprocher à ce pauvre monsieur Papon ? D'avoir apporté son concours à l'expédition en villégiature outre-Rhin de quelques juifs ? Peut-on raisonnablement lui en vouloir d'avoir exécuté les ordres d'un gouvernement qu'il s'était fait un devoir de servir fidèlement ? Vous allez me dire qu'en octobre 61, il aurait pu se dispenser de mettre au pas quelques activistes algériens. Honnêtement, peut-on lui tenir rigueur pour quelques terroristes aimablement conviés à prendre un bain dans la Seine ? Le métro Charonne, quoi encore ? On va pas faire une histoire pour une petite dizaine de cocos mis au pas définitivement. S'il a été préfet de police, ministre sous des présidents de la République aussi respectables que De Gaulle et Giscard, c'est bien qu'il en était digne. Alors, s'il vous plaît, laissez en paix ce brave homme. Un peu de respect pour les morts, quand ils ont eu l'élégance de n'être ni juifs, ni arabes, ni coco. Allez, salut, c'était Daniel depuis la Corrèze.
Écoutez, là, on annonce ce soir que Maurice Papon est décédé, et on rappelle qu'il a été jugé pour être condamné et emprisonné pour son rôle pour la déportation des juifs, 1600 juifs lorsqu'il était préfet en Gironde, mais on n'évoque pas le fait qu'il a jamais été ni jugé, ni poursuivi, ni condamné pour le 17 octobre 61 pour les nombreux morts, alors qu'il était préfet de police, et que la police, sous ses ordres, et avec sa bénédiction, ont balancé des centaines d'Algériens, de manifestants pacifiques, dans la Seine. Et qu'encore aujourd'hui, la police et les hommes politiques ne donnent pas les chiffres et les vraies informations. Parce qu'il est encore très difficile d'avoir les documents pour que la vérité et justice soient rendues. Alors, pourquoi vous feriez pas une émission, par exemple avec Anne Tristan, qui a fait un livre, Le silence du fleuve, sur le 17 octobre 61. Voilà. Ce ne serait que justice rendue.
C'est pas seulement en France qu'on éprouve du plaisir à tirer, non plus sur une ambulance, mais cette fois franchement sur un cercueil. C'est pas seulement en France. Ici, en Chine aussi. Aussi, c'est la fête. À Pékin, les pétards pètent de partout, des feux d'artifice, une ambiance à tout péter, c'est le cas de dire, et on dîne et on festoie et on se réjouit et on s'amuse et on rigole. Et nous, on interprète ça comme ça, en tout cas. L'équipe de la base qui j'y suis est ravie ce soir d'être et de festoyer un petit peu, quand même, à Pékin, à l'occasion du décès de notre regretté Franco. Non, c'est pas Franco. Et comment il s'appelait déjà ce gars-là ? En tous les cas, concernant l'auditeur qui s'intéresse effectivement au 17 octobre 1961, effectivement, Maurice Papon ne fut pas seulement le préfet de Bordeaux, il fut aussi le préfet de police de Paris le 17 octobre 1961. C'est une date dont on a beaucoup parlé dans la base qui suit depuis longtemps, depuis au moins 1991. C'est vrai, cet auditeur le rappelle, nous n'étions pas les premiers, et ça n'a aucune importance d'ailleurs à en parler. Anne Tristan y avait travaillé, d'autres y avaient travaillé, et c'est toute une suite de têtus, d'arapèdes qui ont réussi à ce que cette journée est portée disparue, pour reprendre le titre d'un documentaire fameux, produit par une équipe britannique, pour que cette journée portée disparue ne disparaisse pas tout à fait. C'est vrai que la vérité n'est pas entièrement faite sur cette journée, sur le nombre de victimes, que les archives restent fermées encore aux chercheurs et aux historiens, mais un travail considérable a été accompli par tous au cours des années, et notamment évidemment par l'historien Jean-Luc Elodie. Donc aujourd'hui, bien sûr, c'est un des thèmes de la Ben si j'y suis, mais on a voulu, avec l'équipe, revenir sur ce 17 octobre 1961. Nous, on est toujours, pour notre part, en Chine, on est ce soir à Pékin, il y a effectivement des feux d'artifice partout. Ce qui est très surprenant ici, c'est que chacun fait son feu d'artifice dans sa rue, dans la cour de l'immeuble, sur le bord du trottoir, d'énormes feux d'artifice qu'on tient à bout de bras, et boum, 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 on fait péter tout ça. Là, ça s'est un peu calmé maintenant, mais là, ça continue, on en aperçoit au loin, c'est magnifique, c'est drôle, c'est extrêmement dangereux. Chaque année, à travers la Chine, il y a une centaine, 150 de morts qui sont sacrifiés sur l'autel de ces réjouissances pyrotechniques que nous dédions évidemment pour ce qui nous concerne aujourd'hui à la mort de notre regretté Maurice.
Ouais, salut Daniel, salut les AMG. Eh ben écoute, je t'appelle, je suis à du côté de Toulouse, là au-dessus de Toulouse. Et puis il y a des grandes pancartes non aux OGM, voilà, on est devant un silo où il y a des OGM. Et là, il y a un spectacle hallucinant. Il y a les flics, les CRS, les gendarmes qui sont à l'intérieur, barricadés. Ils ont été barricadés par les faucheurs volontaires d'OGM qui font de la musique. Et alors, ce qui est génial, c'est que tous ces jeunes-là qui ont appris à faire de la musique sur des tonneaux, ouais, ils sont tous en train de s'amuser devant les flics qui font de la musique. Écoute-moi ça. Bon allez, ciao Daniel, ciao à tous.
Bonjour, ce matin en se réveillant, grande question posée par les informations. Faut-il enterrer Maurice Papon avec la croix d'honneur? Réponse du peuple, des gens de mon âge, d'une trentaine d'années. On s'en tape le coquillard, on n'en a rien à foutre. Je pense que on a vraiment d'autres choses à penser et à faire que de savoir si quelqu'un qui est mort doit être enterré avec la Légion d'honneur. Voilà. Voilà, bon courage. Au revoir.
Salut Daniel, c'est Isabelle des enfants de Don Quichotte Toulouse. Donc alors ici c'est toujours aussi bloqué car les politiques locaux sont dans la lignée des nationaux. Donc même sur un sujet aussi consensuel que la cause des gens de la rue, ils ne peuvent s'empêcher de faire de la politique politicale, c'est-à-dire des promesses. La gauche chez nous est à la région et la droite est à la préfecture, et la mairie se renvoie la balle pour toutes les décisions qu'on devrait prendre sur le terrain. Donc ici, rien ne bouge finalement. Donc ce week-end, on a décidé de faire une opération coup de coin. On leur a montré en prenant des bâtiments vides de France Télécom qui pouvaient y avoir plus de 7000 m² vides en plein centre-ville, inoccupés depuis plus de 3 ans, et que franchement on pouvait faire du relogement sur Toulouse assez rapidement. Sinon, ben ici c'est les vacances et les bobos sont partis et se foutent de nous. Il n'y a personne qui passe sur le campement vraiment cette première semaine, car ils doivent être sur leur piste qui dénature la montagne, j'imagine. Bon voilà, en tout cas Daniel, il faut ici que les gens passent. Il faudrait que tu passes ici, car on est là depuis 7 semaines, et on est vraiment, je le répète, le seul campement en autogestion pour la nourriture, pour du collectif. Et vraiment, c'est une expérience magnifique que même le réalisateur de Ici Najac à vous la terre est avec nous depuis le 2 janvier, Jean-Henri Meunier. Et s'il a le César, parlera de nous à la soirée. À plus, camarades.
Oui, bonjour, Alain de Saint-Lô dans le département de la Manche. Je conduisais ce jour même, là, ce vendredi, là, et j'écoutais cette émission complètement dingue sur ce séjour qu'ils ont fait en Chine, à la limite de la frontière nord-coréenne. Et quand on entend ces gens qui témoignent, ce jeune homme de 19 ans qui a perdu plusieurs membres de sa famille, c'est vraiment c'est complètement dingue, c'est ahurissant, en début du 21e siècle, de penser qu'un pays comme ça est... laisse mourir sa population sans rien faire finalement. C'est vraiment... Moi, j'écoutais ça avec une attention très particulière, mais... Et à même moment, je me suis arrêté de conduire, parce que j'étais tellement... C'est poignant, quoi. On se demande si c'est encore possible dans ce bas monde, quoi. Voilà.
J'ai eu du mal à suivre, malgré l'émotion que j'ai eue sur la Corée, là, aujourd'hui, parce qu'en même temps, il y avait des bûcherons qui abattaient le grand eucalyptus magnifique qui est dans l'espace des jardins jardiniers qui sont... Les jardins ouvriers, pardon, qui sont devant moi, là. Et l'eucalyptus, avec la tempête, ben, il a pris un gîte pas possible, donc il était menaçant. Et pendant toute l'émission, il travaillait, donc j'ai regardé en même temps que j'écoutais. Et puis tout d'un coup, vous avez parlé du 25 mètres de haut là, de la statue de Kim Il-sung dorée, pleine d'or, je sais pas quoi. Et à ce moment-là, ben, l'eucalyptus aussi, de 25 mètres de haut, ben, il est tombé. Alors, ça m'a fait tout drôle, l'eucalyptus, sûrement beaucoup plus beau que la sculpture à la con. Mais bon, voilà, je voulais le dire à tout le monde, quoi. Adieu l'eucalyptus, et puis surtout les petits nids, les petits oiseaux, tout ça. Je suis très triste pour l'eucalyptus, et pas pour Kim Il-sung. Bonjour à tout le monde, et là-bas, si j'y suis, que ça continue toujours. Ciao, bisous. Rémi à Saint-Nazaire.
Paris a connu des heures qui jusqu'alors semblaient n'appartenir qu'au difficile destin de l'Algérie. Obéissant de gré ou de force aux consignes du FLN, les musulmans de la capitale, mobilisant femmes et enfants, ont voulu protester contre les mesures prises par les autorités françaises pour lutter contre l'insécurité et le terrorisme. Au cours de heures tragiques, un nombre considérable de manifestants ont été arrêtés, parmi lesquels beaucoup devaient être aussitôt dirigés en Algérie vers leur gloire d'origine.
Il pleuvait énormément. Il y avait beaucoup de vent. Et à un moment donné, j'ai vu que des bouches de métro commençaient à sortir des Algériens qui avaient les mains à hauteur d'épaule. Ils montraient qu'ils avaient les mains vides, qu'ils étaient complètement pacifiques. Et à ce moment-là, j'ai vu surgir, mais je dis vraiment surgir parce que je ne les avais pas remarqués, des inspecteurs de police, je dis bien aussi des inspecteurs et pas des policiers en habit, qui se sont mis à les matraquer avec leur revolver. Et aussitôt qu'un essayait de se relever, il leur redonnait des coups.
Ceux qui étaient à l'intérieur du pont, de l'autre côté des ponts, ça a été fermé par des cordons, le service garde mobile ou la police. Et de ce côté-là, de l'autre côté, pareil. Alors qu'est-ce qu'on a fait de cette communauté, de ceux qui étaient à l'intérieur du pont? Tout simplement, on leur a attaché les mains et les pieds, on les jetait à la Seine. Et la police a assassiné les Algériens. Donc c'était, moi quand je pense à ce jour-là, je vous assure que ça me fait très mal. J'aimerais ne pas en parler, mais je me dis qu'il faut en parler parce que c'est la mémoire.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis, 17 octobre 1961, parce que c'est la mémoire.
Flight number 2, arriving from...
J'avais 20 ans et je ne laisserai jamais personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Je lisais Paul Nizan et j'avais 17 ans. Le 17 octobre 1961, il pleuvait ce soir-là sur Paris et nous avions peur de la haine qui était en chacun. J'étais dans la manif sur le pont Saint-Michel, la manif des Algériens venus des bidonvilles, des banlieues. On ne disait pas encore algérien, on disait français, musulman, algérien. On disait bougnoul, sidi, crouya, raton et melon. Des femmes, des hommes, habillés beaux. Des femmes avec des robes à fleurs sous les impairs, effrayées de leur audace de se montrer, d'exister dans Paris. Parfois on entendait Algérie algérienne. Et puis, les gardes mobiles ont chargé sur le pont Saint-Michel, panique dans la foule, comme tous. J'ai couru et, sans savoir pourquoi, je me suis arrêté au niveau de la pendule au bout du pont Saint-Michel, à l'entrée du métro. Et là, j'ai vu un homme, un manifestant, passer par-dessus le parapet. Il s'est planqué en boule, tassé sur le rebord extérieur du pont qui surplombe le fleuve. Les gardes mobiles chargeaient, on criait en entendant des pas, des cris, des halètements tout autour. Et puis, j'ai vu un CRS, c'était pas des CRS, je pense que c'était des gardes mobiles, qui a vu l'homme en boule sur le rebord du pont Saint-Michel et qui a commencé à le massacrer à coups de crosse. J'entends encore très précisément les coups de crosse sur le dos de ce type, puis sur le crâne. L'homme s'agrippait aux colonnettes du pont et les forces de l'ordre, ils étaient 5 ou 6, ont cogné inlassablement sur les mains jusqu'à ce que l'homme lâche prise et tombe dans la Seine comme une pierre. Dans la chute de Camus, Albert Camus, le narrateur entend un corps tomber dans l'eau. Il hésite et il continue son chemin. Et je n'ai pas continué mon chemin. Pas de la même façon, jamais plus. Je me souviens aussi du 1er novembre 1961, quelques jours plus tard, au métro Maubert Mutualité, il y avait un petit homme bigleux et silencieux et une petite foule autour, silencieuse. Les hommes et les femmes qui étaient là étaient traîtres à la patrie. Ils militaient dans des réseaux de soutien aux Algériens en lutte contre la colonisation française. Il y avait aussi des hommes jeunes qui refusaient de partir en Algérie avec le contingent. Ils désertaient, ils sifflotaient le déserteur de Boris Vian et je sifflotais avec eux. Mais pas là, il y avait ce silence, on se taisait, 5 minutes de silence en hommage aux victimes du 17 octobre 61. Mais c'était aussi et avant tout un silence d'impuissance. L'intuition que ce silence durerait très longtemps. Au bout de quelques instants, nous nous sommes dispersés dans ce dimanche morne. Le petit homme, bigleux et silencieux, s'appelait Jean-Paul Sartre. Une amnésie qui gangrène et qui a gangréné notre pays depuis plus de 30 ans. Un pays complice par indifférence. Mais voilà qu'on dirait que quelque chose se débloque, s'ouvre enfin des archives, des consciences, des mémoires sur nos épouvantables secrets de famille, notre misérable petit tas de secrets à nous. Est-ce la fin de l'époque opaque, la fin du mépris d'État? Sisyphe, aujourd'hui en tout cas, s'arrête un instant sur le pont Saint-Michel, jette une rose dans la Seine en se demandant est-ce la fin de l'oubli et peut-on oublier l'oubli?
Les musulmans étaient dans les rues de la capitale. Ils y étaient en foule, 20 à 25 000 semble-t-il, regroupés dans différents secteurs suivant les mots d'ordre du FLN pour manifester leur opposition aux mesures prises récemment par les autorités à leur encontre. Vous savez ce que sont ces mesures? Elles se traduisent pratiquement par l'impossibilité de circuler le soir. En tout cas, les cafés tenus par des musulmans doivent être fermés à 19h30. Hier donc, quelques premières manifestations en fin de matinée et dans l'après-midi ont lieu sur les grandes artères de Paris. Dans la soirée, un nœud important se forme vers le rond-point de la Défense, d'autres dans divers secteurs. Crise hostile, slogan FLN, voitures malmenées, retournées. Très vite, les heurts deviennent inévitables. Des coups de feu claquent chez les manifestants. Les forces de l'ordre ripostent. C'est le scénario dramatique. Bilan, 2 tués et aussi 1 Européen. Un Français originaire du Finistère et demeurant à Rouen, qui était on ne sait pourquoi à Paris. Il est mort à l'hôpital Cochin. 64 blessés hospitalisés parmi les musulmans. 12 de représentants du service d'ordre, dont 2 brigadiers et 1 officier de police blessés également. Soulignons toutefois que personne dans le service d'ordre n'a été blessé par balle. Plus de 11 000 musulmans appréhendés et conduits au palais des sports ou au stade de Coubertin. Le préfet de police devait faire savoir cette nuit Une grande partie d'entre eux seraient refoulés dès cette semaine sur l'Algérie. Voilà où on en était au lever du jour.
L'infamie perce et laisse des trous. L'infamie perce et laisse des trous. On m'a demandé d'oublier les années de saignée, le mépris planifié à tour de bras renouvelé, les carnages organisés, les mises en charpie autorisées, les songes et espérances liées pas à la frais. On m'a demandé d'oublier ces rayons de gloire qu'a pu darder une nation à nous expédier en charbon. Des années après l'industrie te perfore les poumons, sinon pas déjà tâter les balles au front en première ligne, chair à canon. On m'a demandé d'oublier les noyades occultées d'une dignité, sa mémoire, les chapes de plomb, les écrans noirs, plaqués sur toute l'étendue des d'une histoire, et le prix des soulèvements les trop pleins, de martyrs étouffés, de lourds silences au lendemain, de pogroms en plein Paris, de rafles à la benne, et ce 17 octobre 61 qui croupit au fond de la Seine. On m'a demandé d'oublier l'infamie perce et laisse des trous, l'infamie perce et laisse des trous, perce et laisse des trous.
Le 7 octobre 61, les Algériens de Paris à l'appel du FLN manifestent contre le couvre-feu. C'est une nuit de massacre. Officiellement, 2 morts côté manifestants, 2 blessés par balle du côté des forces de l'ordre. En vérité, il n'y eut pas un seul policier blessé par balle, mais la répression fit plus de 200 morts. Depuis 58, il faut dire que le FLN pratique des attentats en France. Mais jusque-là, c'était une sorte de guerre civile qui se livrait dans ce qu'on appelait à l'époque donc la métropole entre le MNA, le mouvement nationaliste algérien, et le FLN, le Front de Libération Nationale. Ça a été une guerre terrible, surtout dans les années 57-58, qui fit des milliers de victimes. À partir du mois d'août 58, commencent des opérations militaires du FLN en métropole contre différents objectifs, des entrepôts d'hydrocarbures par exemple, et aussi contre des commissariats de police, contre des policiers. De 1958 à 61, environ 60 policiers ont été tués par le FLN en France. Dans l'été 61, les attentats sont suspendus à cause des négociations qui sont en cours, mais en septembre 61, les attentats reprennent. C'est à ce moment-là que la répression du côté français se durcit.
Il a fallu des résistants, des résistances, pour que cette journée de massacre soit portée à notre mémoire. Tant les forces de l'oubli, la machine à oublier, a été particulièrement efficace pour faire oublier ce qui s'était passé ce jour-là. Néanmoins, dès novembre 1961, dans le journal Vérité, Liberté, animé par Pierre Vidal-Naquet, on dénonçait les massacres du 17 octobre. Le journal fut saisi sur ordre de Monsieur Papon. En 1961, le livre « Ratonnade à Paris » de Paulette Piéju, qui avait été édité chez François Maspero, est également saisi par la police. Et puis, il y a eu en 1962, octobre 62, c'est-à-dire un an après, la première projection du film de Panigel, « Octobre à Paris », le film a été saisi par la police. Le film a été ensuite projeté seulement en mai 68, c'est-à-dire 7 ans après, au Quartier Latin. Bref, c'est l'histoire d'un oubli, d'une volonté d'oublier, et puis du phénomène aussi du refoulement et de l'occultation collective. Il a fallu attendre le début des années 80 pour qu'on ose parler à nouveau dans un certain nombre de magazines comme Lire, comme Libération aussi, qui avait consacré des numéros à cet anniversaire. Et puis ensuite en 91 à nouveau, enfin on parlera de tous ces efforts là, mais la date importante a été 1991, en effet, la parution du livre de Jean-Luc Enaudi, La bataille de Paris, qui retraçait la journée du 17 octobre 61, mais qui aussi s'appliquait à décrire le contexte dans lequel cette journée, ce jour noir, ce jour de massacre, avait surgi. En 1991, Jean-Luc Enaudi.
En France, donc, à début septembre, fin août, début septembre 61, les attentats reprennent. Les attentats du FLN reprennent. En même temps, donc, se durcit cette répression. Et des policiers sont tués. Il y en aura 11 de fin août jusqu'au début octobre 61. 11 à Paris et dans la région parisienne. Au sein de la police parisienne, cela crée un choc profond. Cette police parisienne, depuis déjà de nombreuses années, elle est travaillée par des ferments disons, à caractère raciste. J'en donnerai un seul exemple. Avant même la guerre d'Algérie, le 14 juillet 1953, à l'occasion d'une manifestation pacifique d'Algériens qui réclamaient la libération de leur leader, Miss Ali Hadj, à la place de la Nation, des policiers ouvrirent le feu contre le cortège qui se dispersait. Il y avait eu 7 morts. Et il y avait eu des scènes de ratonnade, place de la Nation. Deux policiers, accompagnés de bérets rouges, d'ailleurs, qui avaient défilé le matin sur les Champs-Élysées. Ça, c'était en 1953, alors qu'il n'y avait pas de guerre en Algérie. En avril 1961, très officiellement, très publiquement, dans un leader policier, disons, d'extrême droite, menaçait de former des commandos de policiers pour que les policiers se fassent justice eux-mêmes. Voilà. Et donc, ces attentats survenant, eh bien, on a vu se développer un terrible désir de vengeance. Terrible. Et dans le courant du mois de septembre, on a commencé à retrouver des cadavres de Nord-Africains au fil de l'eau. Et je dis de Nord-Africains à dessein, parce que c'était non seulement des Français musulmans d'Algérie, comme on disait, mais aussi des Marocains, mais aussi des Tunisiens. Il y a eu dans cette période de nombreux Marocains qui ont été victimes d'assassinats ou de tentatives d'assassinat. Et d'ailleurs, ça avait créé de grosses difficultés dans les relations franco-marocaines. Donc on retrouve ces cadavres. Et là, on commence à voir de premiers témoignages. Et parmi les Algériens, la rumeur se répand. On veut nous noyer. Parce que ce qu'il faut savoir et comprendre, c'est que ces Français musulmans d'Algérie, ce sont pour l'essentiel des Kabyles. Des gens qui viennent de régions de montagne. Très peu d'entre eux savent nager. Très peu. Et ça, c'est connu. Hein, c'est pas par hasard qu'on les jette à l'eau. Hein. Et donc, il y a une véritable psychose qui se développe. Du côté donc des forces de police, on demande, face à ces attentats qui ont eu lieu, on demande aussi l'exécution des condamnés à mort. On demande l'instauration d'un couvre-feu. Et le 5 octobre 1961... sur décision du gouvernement, le préfet de police Maurice Papon et le ministre de l'Intérieur Roger Frey décrètent un couvre-feu s'appliquant à toute la population originaire d'Algérie, à tous les Français musulmans d'Algérie. C'est un couvre-feu qui ne dit pas son nom d'ailleurs, hein. Il est formulé en termes de conseil pressant. Mais dans les documents internes à la police, on parle là bel et bien de couvre-feu. Donc ces Français musulmans d'Algérie n'ont plus le droit de sortir de 20h30 à 5h30 du matin. C'est un couvre-feu qui viole les principes et la lettre de la Constitution.
Un témoignage important en 1991, celui de Ali Haroun, avocat, historien, l'un des chefs du FLN, de la Fédération française du FLN, qui, à l'époque, était le porte-parole en France de cette même fédération.
Alors, le 17 octobre, donc, le comité fédéral, en réponse aux demandes de la base, c'est-à-dire des militants de base, a envoyé des directives. Ces manifestations devaient se dérouler le 14 octobre, mais vu le manque de temps pour la préparation, ça a été reporté au 17. Ces manifestations avaient pour but de montrer que l'ensemble des Algériens, pacifiquement, étaient avec le FLN et qu'il était temps d'arrêter cette répression inutile. Une des mesures de répression qui avait été imaginée par M. Papon était d'imposer un couvre-feu spécial à une certaine catégorie de population, c'est-à-dire tous les Algériens qui se trouvaient dans la région parisienne. Il leur était interdit, je dis entre guillemets conseillé par M. Papon, de ne pas sortir après 20 heures et avant 5 heures du matin. Donc toute personne au teint basané et aux cheveux crépus frisés qui se trouvaient dans les rues à ce moment-là étaient l'objet de sévices et de bastonnades. C'était le fameux couvre-feu raciste que le FLN voulait combattre. Pour le combattre, eh bien, c'était simple. Nous avions imaginé qu'un jour, un jour J, toute la communauté algérienne qui se trouvait à Paris et dans la région parisienne allait sortir manifester sur les grands boulevards, à l'Étoile, l'Opéra, le Quartier Latin, etc. Tous les boulevards où il y avait beaucoup de monde et surtout beaucoup de touristes étrangers qui auraient été les témoins oculaires de ces manifestations. Nous avions demandé donc à nos militants de sortir avec hommes, femmes et enfants et défiler après 20 heures, donc après le couvre-feu, l'heure du couvre-feu imposée aux Algériens, de défiler pacifiquement. Alors, moi je n'étais pas sur les lieux, bien entendu. Nous avions donné ordre à tous les responsables de ne pas se trouver, les responsables à partir d'un certain niveau, puisque nous savions qu'il allait y avoir des arrestations. Alors, par contre, il y avait sur les lieux des cadres moyens, c'est-à-dire au niveau du chef de secteur, chef de cellule, chef de groupe, etc. Ces gens-là étaient là pour encadrer. En plus, nous avions demandé à nos amis français des réseaux, ceux qui étaient pour la négociation, de se trouver un peu partout le long du parcours, de prendre des photos, de prendre des films et d'être les témoins oculaires de ce qui allait se passer. Je dois vous dire qu'à cette époque-là, le FLN était très structuré. Il y avait, on dénombrait à l'époque, 13 échelons entre la cellule de base et le comité fédéral. 13 échelons. Disons, dans le mois qui a suivi, toutes les semaines, nous recevions des rapports de plus en plus détaillés. Et c'est en faisant la synthèse de tous ces rapports que nous avons pu avoir une idée de l'ampleur de la répression qui s'est abattue sur cette manifestation. Nous avions prévu qu'il y aurait une réaction des services de police. Et c'est pour ça que nous avions prévu différentes phases d'action. La manifestation du 17 octobre devait se dérouler en trois phases. Mais ce que nous n'avions pas prévu, c'était la férocité de la réaction, policière. D'après nos rapports, nous sommes arrivés à peu près à déterminer en moyenne 200 morts cette nuit-là. Je dis 200 parce que nous en avions déterminé plus d'après les rapports. Mais comme le lendemain et le surlendemain, des centaines, peut-être même des milliers d'Algériens ont été transférés dans les camps d'Algérie, nous n'étions plus en rapport avec eux. Alors, nous avions un grand nombre de disparus. Par contre, pour les morts, nous les avons évalués à 200. Et je dois vous dire que dans le mois qui a suivi, on a repêché tout de même une soixantaine de cadavres dans la Seine.
Alors, comment c'est préparer exactement cette manifestation côté des forces de l'ordre, côté préfecture de police? Là, on a vu Ali Haroun nous raconter comment ça s'est passé du côté du FLN. Voilà les précisions de Jean-Luc Enaudi.
Le
17 octobre au matin, Maurice Papon, à la préfecture de police, rassemble ses adjoints immédiats pour examiner la situation. Carte blanche lui est donnée par l'hôtel Matignon. Ces rassemblements ne doivent pas pouvoir se tenir. À lui de faire tout ce qui est dans son pouvoir pour
donc,
que ça n'ait pas lieu.
Donc Michel Debré couvre Papon.
Michel, les instructions sont très claires. Ces rassemblements ne doivent en aucun cas avoir lieu. Hein, il n'est pas question de tolérer des manifestations du FLN dans la capitale française. Mais revenons encore un peu en arrière. Dans la première quinzaine d'octobre, Maurice Papon fait la tournée de certains commissariats. Et là, son mot d'ordre est clair, c'est « vous serez couvert ». Si vous tuez un Algérien, le patron, qui viendra sur place, aura tout ce qu'il faut sur lui pour que cela paraisse être un acte de légitime défense. Autrement dit, vous tuez un Algérien, le patron qui viendra aura sur lui un couteau qu'il mettra sur l'Algérien et ce sera de la légitime défense. C'est ce qu'il dit à ses hommes dans les commissariats. Et publiquement, lors des obsèques d'un policier, dans la cour de la préfecture de police, donc évidemment dans un climat extrêmement tendu, Maurice Papon a cette phrase « Pour un coup reçu, nous emporterons 10 ». Et cette phrase est comprise immédiatement comme
Pour un
tué, tuons autant d'Algériens qu'on veut. C'est compris comme ça. C'est ce que me rapportent des policiers de cette époque. Ça a été compris comme ça. Mais en définitive, son mot d'ordre, et ce qu'en retiennent les policiers qui sont sous ses ordres, c'est « vous serez couverts ». Et effectivement, il va tout couvrir, mais il fera plus que couvrir. Il justifiera. Il rendra hommage. Il glorifiera des crimes.
Dans la presse française, du lendemain, du matin, du 18 octobre 61, qu'est-ce qu'on pouvait lire ? L'Aurore parlait d'une masse hurlante et menaçante à propos des manifestants. Paris Presse disait « Ils ont pris le métro comme on prend le maquis ». Le Parisien libéré parlait d'un flot de musulmans qui déferlent vers le centre de la capitale en multipliant les exactions et les cris hostiles. Paris Jour parle de cette masse narguant les pouvoirs publics. Et même le journal Le Monde prétend avoir vu plusieurs hommes en civil de type nord-africain, c'était dans Le Monde, qui s'enfuient armés de pistolets mitrailleurs. Ça donne une idée du climat qui régnait aussi dans la presse. La suite prouvera, par parenthèse, que les manifestants n'étaient absolument pas armés.
Et là, les rafles ont lieu aux portes de Paris. Les violences ont lieu également, tout de suite. Là, à l'époque, les policiers sont munis d'un manche de bois, une sorte de long manche de pioche d'un mètre dix.
Jean-Luc Henaudy, historien.
Bien utilisé, mais on leur apprend à l'utiliser. Peut tuer. Ça fait éclater le crâne. Et ce jour-là, eh ben, ça va être l'arme, une des armes les plus utilisées, le bidule. Et comme ces Algériens arrivent de plus en plus nombreux, eh bien, Maurice Papon décide de réquisitionner les autobus de la RATP. Les autobus avec leurs chauffeurs. La dernière fois que ça s'est fait, ça, c'était en 1942, pour la rafle du Veldiv, c'est ça. Ça pose aucun problème à Maurice Papon. De la même façon que ne lui avait posé aucun problème en septembre 1958, de faire interner plusieurs milliers d'Algériens aux Veldives. Et déjà à cette époque-là, en 1958, on avait parlé d'Algériens tués aux Veldives. En 1961, le Veldiv n'existe plus. Alors d'autres lieux sont réquisitionnés pour interner ces Algériens. Et notamment le Palais des Sports, la Porte de Versailles, mais aussi le Stade de Coubertin. pont de Neuilly, les Algériens essayent de franchir le pont. La police et des supplétifs ouvrent le feu, il y a des tués. Pont de Clichy, entre 19 et 20 heures, des Algériens essayent de franchir le pont. Et là, compagnies de district, ce qu'on appelle les compagnies de district, des unités constituées par Maurice Papon, à partir de 1958-59, et qui ont pour unique fonction la répression. Et ce sont ces compagnies de district qui vont être le fer de lance de la chasse aux faciès ce soir-là. Pont de Clichy, donc, des Algériens essayent de franchir le pont, et les membres de d'une compagnie de district interviennent, tirent, les cadavres et des corps sont jetés dans la Seine, hein. Et ça, ce policier qui s'appelle Paul Rousseau, et qui est un de ces policiers à qui il faut absolument rendre hommage. Parce que ils ont été peu nombreux, mais il y en a eu des policiers qui ont été, en tant qu'hommes, bouleversés et marqués pour leur vie entière, parce qu'ils ont vu cette nuit-là. Et lui, c'est un de ceux-là.
Alors, il y a eu un certain nombre d'Algériens qui ont été arrêtés, qui ont été ramenés dans les commissariats.
Sur le pont de Clichy, oui, effectivement, j'ai été témoin visuel de voir ce qui s'est passé avec certains Algériens qui ont été balancés par-dessus le parapet.
Bon, bah, il y avait
des Algériens qui ont pu s'enfuir certains. Mais alors, malheureusement, c'était horrible. Sur le pont, il y avait du sang. Sur le bord du parapet, il y a du sang. Puis les collègues, quand ils sont venus, ils ont dit, voilà, nos bougnoules, on les a eus. Ils avaient du sang sur les mains parce que...
Par rapport à la rumeur qui avait circulé parmi les forces de police, on n'a pas noté ni blessés ni tués après la manifestation, ça ne s'est pas confirmé.
Absolument pas. Il n'y a pas eu de blessés ni de tués, puisque pratiquement les interventions de police n'ont pas permis... de toute façon, ils avaient des ordres, les Algériens, de venir les mains vides par leur propre responsable du FLN. Bien que faut dire aussi que parmi certains de leurs troupes, de certains de leurs chefs, il y en a qui les excitaient un petit peu aussi. Enfin, malgré tout, ils n'étaient pas tellement enclins à vouloir se battre, quoi. Et du fait que des interventions ont été spontanées et, disons, assez rapides, enfin spontanées rapides, bien sûr, ils n'ont pas eu le temps de réagir. Et donc, pratiquement chez nous, il n'y a pas eu de blessés, ni de tués, ni de blessés, quoi.
Alors, quand même, pendant les temps qui ont suivi, il y avait une certaine tension et une certaine haine qui s'était installée au sein de la police vis-à-vis de la population algérienne de la capitale.
Oui, c'est exact, effectivement. De toute façon, déjà, avant la manifestation, déjà, il y avait des anti-algériens, si je puis dire. Fallait manger du bougnoule, c'était pas du tout mon principe. Là, après aussi, bah, naturellement, par la manifestation, mais enfin, comme il n'y avait pas eu quand même de tués et de blessés chez nous, c'était donc dans la lignée de ce qui se passait déjà auparavant. On interpellait dans la rue des Algériens, des ouvriers, même qui partaient avec leurs musettes. Il y en a qui leur balançaient leurs musettes dans les égouts, qui les tapaient et tout ça, quoi. Pour certains, c'est systématique, quoi.
Il y a eu beaucoup de témoignages, vous en doutez, sur cette journée portée disparue, justement dans ce film intitulé Une journée portée disparue. Aujourd'hui, l'histoire se construit, les témoignages se réunissent, on arrive à savoir à peu près seulement ce qui s'est passé, puisque, faut-il le rappeler, les archives ne sont pas entièrement ouvertes, d'une part, et d'autre part, les archives que l'on trouve sont dans un drôle d'état et en grande partie caviardées, donc le travail n'est pas fini. On voit à travers tout ça la volonté qu'il y a eu et qui persiste à essayer d'enfouir cette journée. C'est évidemment stupide parce que bon, on finira bien par savoir, et à défaut de savoir, eh bien c'est encore pire parce qu'on pourra fantasmer, et un tel refus de la part de l'État nourrit évidemment les fantasmes, les frustrations, cette fameuse fracture coloniale dont on a parlé ces jours derniers. Il faut évoquer ici l'histoire de ces deux conservateurs aux archives de Paris, Brigitte Lenné et Philippe Grand, qui ont fait l'objet de mises à l'écart, pour pas dire mises au placard, dans leur administration, pour avoir fourni des preuves des massacres 1961, lors du procès fait par Maurice Papon à Jean-Luc Enaudi. Il faut rappeler qu'en 1997, à Bordeaux, devant la cour d'assises, lors du procès Maurice Papon, Jean-Luc Enaudi, qu'on vient d'entendre, l'historien, a témoigné contre Maurice Papon. Papon a poursuivi ensuite Enaudi, et en février 99, enfin le jugement a été rendu en mars 99, le tribunal a débouté Maurice Papon de ses demandes et a reconnu la répression policière du 17 octobre, reconnaissant que cette répression peut être qualifiée de massacre. Mais les deux archivistes, Brigitte Lenné et Philippe Grand, qui avaient produit des preuves irréfutables, effectivement, de ces massacres, ont été, donc, je le disais, mis à l'écart. Dans leur administration, Philippe Grand est parti à la retraite sans que son honneur n'ait été rétabli. Et on apprend que Brigitte Lenné, après 5 années et demie ou 6 ans de placard, a été réintégré dans sa fonction. Il y a des gens courageux, on vient de l'entendre chez certains policiers. Voilà d'autres exemples dans ces témoignages qui suivent.
Eh bien, donc à ma prise de service au 15e arrondissement, on m'a chargé de commander un car police secours et de me rendre immédiatement à la porte de Versailles, au palais des sports. Arrivé à la porte de Versailles, j'ai assisté à un spectacle vraiment navrant et inhumain. Des Français musulmans algériens descendaient des cars de la RATP, des cars de police, et au fur et à mesure qu'ils descendaient, c'est un euphémisme, qu'ils étaient projetés à l'extérieur.
Joseph Golenjinger.
Une rangée de deux policiers les accueillait à coups de bâton, à coups de matraque, avec tout ce que vous voulez comme violence. Il y en a qui étaient complètement assommés et blessés assez gravement, surtout à la tête. J'ai donc été chargé de ramasser quelques blessés assez graves et de les conduire à l'hôpital Boussicault.
Est-ce qu'il y a eu des morts, selon vous?
Je ne les ai pas vus, personnellement, mais paraît-il que ceci m'a été rapporté par des collègues dignes de foi, et il y en avait à l'intérieur du palais des sports.
Est-ce que vous aviez les moyens de vous opposer à la conduite de vos confrères?
Aucun moyen. Quand j'ai voulu élever la parole et protester, on m'a menacé. Hein.
Qui vous a menacé?
Des collègues qui avaient caché leur numéro matricule, parce que on avait une plaque à ce moment-là, avec le numéro matricule. Tous ces numéros avaient disparu. Les gradés avaient enlevé leur galon. Alors je me suis adressé à un sous-directeur qui était en haut des marches du palais des sports, et je lui ai demandé de faire cesser ce carnage. Ben, ce monsieur ne m'a pas répondu. Sans doute était-il dans le même cas que moi, se sentait-il menacé, je n'en sais rien. Mais enfin, personne n'a réagi et les gradés ont laissé faire. Moi, personnellement, petit flic, que voulez-vous, où voulez-vous que j'intervienne à ce moment-là? Donc il n'y avait que le syndicat qui pouvait faire quelque chose. Mais ma lettre a dû rester dans les archives, quoi, puisque Naudi l'a retrouvée. Ensuite, on a eu des discussions dans les réunions syndicales, dans les commissions administratives, où j'ai réitéré mes protestations. Mais il me semble que ça a été assez vain. Mais ce que je regrette, c'est que le syndicat n'ait pas réagi assez violemment. Ils se sont laissés prendre aux promesses du préfet de police de l'époque, quoi.
Comment vous jugez a posteriori l'encadrement de cette époque?
Un encadrement un petit peu servile à la botte de quoi du préfet de police. Pas tous, hein. Je regrette, hein, pas tous. Mais beaucoup de gradés avaient peur de se mouiller, comme on dit vulgairement. Enfin, tout ça, c'est le passé maintenant.
Vous avez quel âge, monsieur?
75 ans. Enfin, je mène une petite vie bien tranquille, une vie de pépère, comme on dit. Ouais. Ouais. Moi, il faut témoigner parce que vraiment cette affaire-là m'est restée sur l'estomac, comme on dit. Hein.
Mm-hmm.
Hein, parce que non, je ne comprends pas le comportement d'êtres humains. Hein, à ce point-là. On peut avoir de la haine, on peut avoir de la méfiance, mais aller à ce point-là, assommer, frapper, voire tuer, hein, c'est inadmissible pour des hommes.
Une nouvelle diffusion du reportage de Daniel Mermet et de Guy Vanquetil. Merci à Jean-Luc Enodi, Mehdi Lalaoui, Ali Haroun, Claude Toulouse et Joseph Golen-Ginger. Si vous voulez en savoir plus sur ce thème, à lire le livre de Jean-Luc Enodi, La bataille de Paris, 17 octobre 1961, aux éditions du Seuil. Dans un autre registre, à voir ce soir à 21h35 sur France 5, la première partie de Vue à la télé, la saga des immigrés, un documentaire qui retrace l'histoire de l'immigration et de sa représentation par les médias en France depuis les années 60. Toujours sur le petit écran, à voir à 22h35 sur Canal+, le reportage de Paul Morera, Irak, agonie d'une nation, un documentaire sur la racine des violences qui secouent ce pays. Paul Morera, le journaliste, est donc allé en Irak afin de voir ce qui s'y passe vraiment. Toutes les informations sont disponibles sur le site de franceinter.com à la rubrique émission « Là-bas, si j'y suis ». À la technique aujourd'hui, Eric Maviel et Dimitri Gronoff. Réalisation Yann Chouquet et Coy Nguyen, assisté de Charlotte Perry. Le chef du répondeur, c'est Christophe Imbert qui attend vos réactions, vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37, le 01 56 40 37 37.